France Inter, le 18-20.
D'abord, c'est la maladie qui impose son rythme. Et le rythme, c'est souvent celui des séances de chimio, des rendez-vous chez le cancéro, des allers-retours à l'hôpital, des soins. C'est contraignant, c'est très contraignant, mais au fond, peut-être aussi est-ce structurant parce que tous les autres repères de la vie ont plus ou moins disparu. Les horaires de travail, les week-ends à la campagne, enfin, les petites banalités du quotidien ont été remplacées par d'autres rituels. Et puis un jour, heureusement, évidemment, et ça arrive de plus en plus, on vous dit, vous êtes guéri, il n'y a plus trace de rien, bon retour à la vie. Bien sûr que c'est une super nouvelle, pour certains c'est une libération, c'est une nouvelle vie, c'est un autre départ, on en profite pour tout changer, pour se libérer de plein d'entraves, pour faire exploser ses propres conservatismes, formidable. Mais parfois c'est aussi à ce moment-là que certains craquent. Une guérison c'est physique, mais c'est aussi psychologique, et ça s'accompagne. Repartir dans le boulot, est-ce que j'ai perdu le fil, est-ce que je dois redéfinir un projet professionnel parce qu'il y a des choses que je ne peux plus faire, soulever des trucs lourds, rester assis, que sais-je. Qu'est-ce que j'explique à mes collègues, comment j'en parle, qu'est-ce que je raconte à mes amis qui veulent absolument me voir prendre des avions, visiter la moitié du monde, comment j'ai juste pas trop l'énergie pour ça ou pas encore. Non, j'ai pas envie d'aller faire du yoga parce qu'après une double ablation, la réappropriation du corps c'est très très long. Et la libido, est-ce qu'on en parle? Et la chirurgie réparatrice et la peur de la rechute? Et mes nouveaux rapports avec mon médecin parce que le quitter parfois c'est difficile? L'après-cancer, souvent, c'est encore le cancer, mais guéri. Et peut-être que pendant qu'on le traverse, en tout cas, il faut exactement la même chose que lorsqu'on a traversé la maladie. Il faut le faire à son rythme. On en parle ensemble ce soir. Soyez les bienvenus.
Fabienne Saintès, le téléphone sonne.
Et c'est Laurence qui démarre. Bonsoir Laurence, soyez la bienvenue.
Oui, bonsoir. J'ai appris il y a 3 semaines que j'étais atteinte d'un cancer. La révélation n'a pas été quelque chose de catastrophique. Enfin, j'ai l'impression. La maladie, je m'en fous un peu. Mais j'ai peur de la femme qui va se réveiller. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu émue, mais j'ai peur de quelle femme je serai, qu'est-ce que ça va être, l'ablation du sein ou que de la moitié. J'en ai parlé à mon époux, qui est fantastique, et qui m'a dit « je t'ai pas épousée pour tes seins, et donc ça changera rien pour moi ». Et ça, c'est exceptionnel. J'ai très peur de reprendre mon travail, j'ai très peur, je travaille avec des enfants, j'ai très peur de leur regard après, comment je vais me présenter devant eux, quelle femme je serai après. Et ça, j'en suis très émue et un peu, j'ai peur de ça, mais j'ai pas peur de la maladie, je vais m'en tirer, j'en suis persuadée. Voilà.
Et on l'est aussi, Laurence, merci beaucoup d'abord pour ce témoignage parce que c'est courageux, votre peur, votre angoisse, on l'entend, et merci d'accepter de la partager avec nous. Moi, ça m'intrigue, cette phrase, j'ai peur de la femme qui va se réveiller, en fait, parce que moi, j'ai un peu l'impression de l'entendre, la femme qui va se réveiller aussi. C'est aussi ce que vous êtes capable de dire à cette maladie, je m'en fous de la maladie, en fait. Au fond, ça ne vous fait pas peur. Et ça aussi, on l'entend dans ce que vous nous racontez, Laurence, en fait. Ah, on a perdu, quel dommage, on a perdu Laurence, mais c'est pas grave, essayez de nous rappeler Laurence, si vous le pouvez, et merci pour cette entrée en matière, en tout cas pour discuter ensemble jusqu'à 20h au téléphone sonne et pour partager ensemble. Séverine Alran est là avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chirurgienne sénologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, et Jacques Tournier est là également, bonsoir Monsieur Tournier. Vous êtes directeur des ressources humaines du groupe pharmaceutique Roche. Docteur Alran, je vais commencer avec vous, il est formidable le témoignage de Laurence, en fait, parce que la peur c'est tellement normal. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison de ne pas avoir peur dans ces moments-là. Mais on sent aussi qu'elle a ciblé exactement un certain nombre de choses qui peuvent lui arriver, en fait.
C'est, effectivement, on entend dans ce reportage, enfin, dans ce témoignage, le futur qui est, on va dire, qui est vaste, mm-hmm. et qui est avec des choses qu'on ne connaît pas. Donc, c'est l'entrée, en fait, dans un monde qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que j'aurais tendance à dire à Laurence, faites confiance au présent et aux personnes qui vont vous prendre en charge, puisqu'on est là pour vous accompagner, tant les médecins que les infirmières, que les personnes qui vont s'occuper de vous. Et effectivement, parfois, il ne faut pas trop anticiper, mais vivre le présent pour ensuite mieux se réparer.
Chaque chose en son temps, en fait, ouais. Parce que là, Laurence nous explique que ça fait 3 semaines qu'elle a été diagnostiquée. Elle parle déjà de son retour au travail. On y viendra dans un instant, et tout ça va s'écouler évidemment dans le temps. Moi, ce que j'entends aussi, c'est combien il est important de tout savoir de ce qui peut nous arriver, en fait. Avoir une espèce de panel suffisamment large pour pouvoir s'y retrouver et donc, au fond, trouver ça normal. La peur, la douleur, la réaction de la famille, la réaction autour. Il faut nous donner ce panel-là quand on est malade, finalement.
Et là, effectivement, ça rejoint l'information adaptée aux besoins des personnes qu'on soigne et pas à nos propres connaissances qui sont à des années-lumière parfois de ce que les personnes ont besoin. Donc après, c'est, enfin, je dirais à Laurent, surtout aux médecins, aux soignants, posez-leur les questions avec vos mots à vous. Et c'est à nous de se mettre à son niveau de connaissance.
Et est-ce que vous avez le sentiment que désormais les médecins savent répondre à ces questions-là, ou est-ce qu'il faut les former toujours plus en fait pour pouvoir recevoir les questions et avoir des réponses, surtout pas des réponses de médecins d'ailleurs, des réponses simples finalement.
Alors, je l'espère. Après, c'est vrai qu'on est tous, chaque médecin aussi est individuel. Chaque médecin a sa propre culture, sa propre façon d'être. Mais effectivement, on peut considérer aussi que l'après-cancer commence finalement à ce moment-là. C'est finalement dans les mots du début, dans les phrases qu'on va dire, qu'on peut marquer durablement, de manière positive et parfois négative, des parcours de soins et des récupérations en post-traitement. Donc c'est vrai que l'annonce, comme dit Laurent, c'est vrai que c'est brut. Tout arrive comme une avalanche, en fait, sur soi-même.
Et on sent bien que toutes les questions arrivent en même temps, en fait. Encore une fois, quand elle parle déjà du travail, ça veut dire qu'il y a des questions à très court terme, des questions à très long terme, des questions à moyen terme. C'est normal, ce mélange-là.
Et c'est pas toujours simple de faire la part des choses. Alors après, il faut faire confiance aussi aux accompagnants, parce que la famille, les amis peuvent être des aides très importantes et vont prendre peut-être la distance que le malade n'a pas au moment de l'annonce.
Lorsque Laurence nous parle de ces peurs-là, est-ce que vous conseillez, vous, très vite, de parler à d'autres malades, en fait, ou des gens qui, aujourd'hui, vont mieux, qui racontent aussi leur propre traversée, ou est-ce que finalement, chacun a une traversée tellement individuelle que le partage n'est pas forcément une bonne idée?
Certaines vont aller vers le partage, d'autres non. Donc, c'est à chacun de voir. Certaines préfèrent rester en famille avec des amis, d'autres vont aller rejoindre des communautés. Et c'est vrai que Internet a profondément modifié ces informations. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de règle.
Jacques Tournier, c'est intéressant ce que disait Laurence également sur « j'ai peur du retour au travail ». Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que quelqu'un comme Laurence, par exemple, viendrait vous voir, vous, directeur des ressources humaines, en disant « voilà, moi j'ai cette peur-là ». Est-ce que du coup, vous conseillez quoi en fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on dit? N'ayez pas peur, voilà les raisons. Est-ce qu'on dit « on peut vous mettre à un autre endroit dans l'entreprise aujourd'hui » Comment ça se passe en fait?
Alors nous, on est une entreprise qui s'efforce, puisqu'on a des traitements dans le cancer, donc on s'efforce d'être en cohérence avec les collaborateurs chez nous. On a eu toute une démarche grâce à une association qui s'appelle Cancer at Work. Et donc nous, on essaye de soigner ce moment de l'annonce avec une attention particulière pour les équipes ressources humaines. Parfois, les personnes vont aussi voir leur manager en premier. Donc la manière d'avoir un terrain favorable, c'est d'abord de communiquer en interne pour que les gens sachent qu'ils puissent annoncer la chose.
Ça veut dire que, en fait, ils vous annoncent, vous, sachant que ils vont probablement partir en congé maladie. Donc, ça veut dire que dès l'annonce de la maladie, on a besoin de savoir déjà qu'on sera le bienvenu au retour.
Oui,
en
très
fait,
souvent.
En quelque sorte.
Très très souvent. Très très souvent. Alors après, on a des cas de figure aussi où on n'est pas au courant, mais franchement, c'est assez rare. Une fois qu'on a établi un dialogue dans l'entreprise sur le sujet et que les gens savent que c'est OK d'en parler, à ce moment-là, en général, bon, s'ils ont une réticence parce qu'ils ont un nouveau manager ou que c'est un service qu'ils connaissent pas trop bien, qu'ils sont dans le cadre d'un changement, à ce moment-là, ils vont venir davantage vers les ressources humaines. Très souvent, ils vont vers leur management. Et à ce moment-là, on travaille ensemble sur le moment de l'annonce à l'équipe. Après, il n'y a pas trop de règles générales non
plus. Mais est-ce qu'il y a forcément une annonce à l'équipe, d'ailleurs? Il peut aussi ne pas y en avoir.
Donc, c'est là où je voulais en venir. Après, il n'y a pas vraiment de règles générales. On ne peut pas pousser quelqu'un à communiquer avec ses collègues, etc. Donc, le premier entretien est très important pour savoir ce que la personne veut et ce qu'elle ne veut pas, et pouvoir adapter les phases qui suivent.
Est-ce que c'est souvent, pour un salarié, pour quelqu'un qui travaille, l'occasion de recommencer différemment, en fait, de se dire, ça peut aussi être une opportunité, donc tiens, je change de boulot, je change de service, je change d'atmosphère, je change d'air. Est-ce que c'est souvent une occasion, finalement, on se dit, après tout, profitons-en, si je puis dire, maintenant que tout va bien, que je suis guéri, que je suis rentré?
Alors, on a deux cas de figure. On a des gens qui, je dirais, par contrainte, veulent faire autre chose. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, soit physiquement, soit moralement.
Bien sûr, il y a des choses qu'on peut plus soulever, des choses comme ça,
bien
sûr. Voilà,
donc nous, on a des gens qui visitent les services hospitaliers, certains en cancérologie, ils ne veulent plus y aller.
Bien sûr.
Donc, à ce moment-là, on peut garder le même métier de contact, mais dans d'autres univers hospitaliers, ou voir, on aménage des missions différentes au siège. Et là, à ce moment-là, il faut réfléchir à quelque chose qui est une vraie valeur ajoutée, parce que la personne n'a pas envie d'une mission gadget. Et donc, quelque chose chose qui ait du sens pour elle. Avec Cancer at Work notamment et d'autres associations de ce type, elles organisent aussi des job dating où nous, professionnels de ressources humaines de diverses entreprises, on va à la rencontre de gens qui sont en recherche d'emploi. Et c'est vrai que là aussi, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à faire complètement autre chose.
Est-ce que ce sont les cordonniers parfois qui sont les plus mal chaussés? Vous travaillez dans un groupe pharmaceutique, donc vous le disiez, vous avez certains métiers qui vous emmènent vers des malades du cancer, et au fond, c'est tout aussi compliqué pour vous, pour une entreprise comme la vôtre, que pour n'importe quelle autre, de gérer la maladie des salariés.
Alors, on essaye d'être...
exemplaire, je n'en doute pas
une seconde. Non, c'est pas le mot que j'allais avoir à l'esprit. Un peu mieux chaussé que la moyenne.
D'accord.
Étant donné, encore une fois, la nature de notre activité. Je voudrais juste redire une chose. Quand on libère la parole dans l'entreprise sur le sujet, ça nous oblige, nous aussi, en tant qu'entreprise, à vivre par les standards qu'on a établis. Donc, quand on a une charte sur le sujet, quand on a des engagements qui sont communiqués largement, on peut pas ensuite faire n'importe quoi. Voilà, c'est une forme d'auto-engagement.
Bonsoir, Emmanuel.
Allô?
Allô, soyez la bienvenue, Emmanuel. Vous êtes sur Inter, soyez la bienvenue.
Oui, bonjour à tous. Donc, j'aurais voulu juste apporter un petit témoignage et soutenir la dame qui vient de parler juste avant moi, parce que j'ai eu un cancer il y a 3 ans, découvert de manière fortuite alors que j'étais suivie et tout. Donc, j'ai eu tout, ablation, chimio, radiothérapie, et au bout de 9 mois, j'ai repris mon boulot. Pour moi, c'était hyper important de reprendre le boulot. Déjà, quand mon médecin traitant m'a arrêtée au tout départ, je pensais qu'elle allait m'arrêter, alors que je connais quand même, je suis infirmière de formation, je pensais qu'elle, dans ma tête, elle allait m'arrêter pour 3 mois. Alors elle m'a dit non, ça sera un peu plus long, et voilà, et après il fallait, moi c'était ma façon de m'en sortir, c'était de me dire, si je reprends le boulot, c'est que tout va bien. Donc voilà, donc j'ai repris le boulot et j'ai repris une vie tout à fait normale, en sachant que, bien sûr, comme vous disiez, on a à la fois une vie tout à fait normale et à la fois on a un suivi quand même. Enfin, moi, ça fait 3 ans, donc tous les 6 mois, je revois l'oncologue et tous les 6 mois, il y a le couperet des examens, de tout ça. Mais tout le reste du temps, je ne suis plus malade. Alors, j'aide après... le mot aider, c'est pas très beau, mais je veux dire, j'ai plusieurs amis qui sont devenus malades et ça a fait comme une chaîne, c'est-à-dire moi, il y a des gens qui m'ont soutenu, donc je soutiens après d'autres gens, d'autres dames, mais voilà, mais c'est vrai que du coup, ça permet de... Moi, c'était ma moyen de m'en sortir, c'était de retravailler.
Merci beaucoup pour ce témoignage.
Voilà.
Merci pour ce témoignage, Michel. Effectivement, recommencer, c'est pas comme si de rien n'était, c'est pas ce que dit Michel, mais recommencer où on a laissé les choses, en fait. C'est aussi ça qu'elle dit, Séverine Aldran.
Oui, alors son témoignage, c'est effectivement fait partie d'un témoignage parmi d'autres, et on sent que après un cancer ou même pendant le traitement d'un cancer, certaines vont avoir une envie de travailler. Et nous, médecins, on est là pour s'adapter finalement. Chaque personne aussi a un travail différent. Il peut y avoir des travaux plus physiques, il peut y avoir des travaux, mais on ne doit pas être dans le jugement. Il faut s'arrêter ou il faut travailler. Je crois qu'il y a vraiment une adaptation selon effectivement ce témoignage. La chaîne aussi de solidarité qui va se mettre en place va beaucoup aider aussi les personnes à savoir ce qu'elles veulent. Mais pour certaines, c'est pas toujours facile de décider. Puis elle a peur aussi du jugement. Celles qui vont s'arrêter, qui vont être jugées par d'autres. Donc c'est, tout récemment, une patiente m'a dit, une jeune femme, Clémentine, à 35 ans, qui me disait qu'elle avait un traitement, donc elle avait un cancer du sein métastatique aux os. Donc c'est une forme relativement grave qui répond bien au traitement. Elle n'avait pas de chimiothérapie en intraveineux et comme ce n'était pas visible, on lui disait, mais pourquoi elle ne reprend pas? C'est-à-dire qu'ensuite, il y a des jugements, les personnes, la peur va faire des jugements totalement inadaptés. Donc, comme moi j'ai l'habitude de dire à mes patientes, c'est faites-vous confiance en vous et oubliez tout ce qui va se dire autour. Parce que c'est extrêmement difficile. Voilà, il y a aussi des cas où une personne qui avait une perruque, on lui a arraché la perruque pour être bien sûr qu'il y ait une perruque au travail. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses, enfin c'est une jeune femme de 28 ans, c'est-à-dire que les personnes qui ne vivent pas la maladie ont aussi une peur qui est irrationnelle. Donc finalement, celui qui fait ça, c'est par peur parfois qu'il y a des choses qui sont faites. Donc c'est vrai que la personne qui est en traitement doit absolument, on va dire, se recentrer sur elle-même. pour affronter ces jugements qui sont parfois inadaptés.
Jacques Tournier, c'est aussi ce que vous disiez, quand parfois c'est, il faut parler aux collègues, peut-être que c'est aussi pour éviter justement ce genre de rapport et pourquoi pas libérer la parole en effet, parce que la peur de ceux qui ne sont pas malades mais qui imaginent qu'ils pourraient l'être, elle est importante aussi dans ces cas-là, comme on le racontait à l'instant.
Alors on a édité une brochure qui sert dans le milieu hospitalier, mais on s'en sert en interne aussi, qui s'appelle Les mots qui blessent, et qui met en valeur voilà ce que peuvent dire les gens, parfois avec des bonnes intentions. Je discutais encore hier soir avec un malade dans une rencontre à Lyon, et la personne me disait, on m'a demandé quand est-ce que j'allais reprendre, quand est-ce que je pensais reprendre. Et il a reconnu en fait que la personne qui lui avait demandé ça, parce qu'il y avait un autre collègue à lui, était bienveillante. C'était quand est-ce qu'on va te revoir, mais ça mettait la personne dans une anxiété d'ores et déjà par rapport à ça. Donc c'est encore une fois la sensibilisation quand même en interne et la communication sur le sujet est très importante.
Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Bienvenue au téléphone sonne Michel.
Merci.
Et on vous écoute.
Voilà. Moi, on m'a découvert un cancer du poumon en 2016 après une pneumonie. Donc, on m'a opéré un mois après. On m'a fait l'ablation du lobe inférieur et le lobe du milieu. Après l'opération, je n'ai pas eu de chimiothérapie, rien du tout, aucun traitement, parce que j'ai fait une septicémie. Donc, je suis restée deux mois de mars jusqu'en juin à l'hôpital. J'étais deux mois et demi sous perfusion avec antibiotiques 24 heures sur 24. Quand je suis ressortie, j'ai eu aucun suivi psychologique, rien du tout. Donc après, j'ai été suivie tous les trois mois. Et en 2017, en juin 2017, j'ai eu le côté gauche qui a été atteint. Le premier cancer, et c'était un carcinome neuro-endocrine à grande cellule du type 3. Donc, pour le côté gauche, on m'a proposé l'opération, mais vu que ça s'est très mal passé, la première fois, j'ai refusé. Du coup, j'ai été dirigée sur un hôpital autre que celui que j'ai été opérée. De là, j'ai été trois mois à faire des examens, des biopsies. On a voulu refaire l'opération, mais avec un colloque médical, on m'a dit que c'était pas la peine parce que j'avais plus assez de capacité respiratoire. Donc, j'ai fait de la radiothérapie. La tumeur a fait 22 mm. Donc après une radiothérapie de 1 heure, chaque radiothérapie, c'était des séquences étalées sur 1 heure et ça a duré sur 6 séances. Là, la tumeur a diminué de 0,4 mm. J'ai refait un diagnostic là il y a 4 jours, enfin la semaine dernière. Le poumon est enflammé, la tumeur n'a pas diminué. On m'a prescrit aucun autre traitement à part de la cortisone. Voilà, je veux dire, normalement je devrais travailler jusqu'en 2017, on m'a mis à la retraite anticipée. Et ce que je voulais dire, c'est que je me retrouve très seule face à cette maladie qui n'est pas finie. Moi je pensais que ça allait se terminer, mais c'est pas terminé. J'ai aucun suivi psychologique, alors que j'aimerais bien en avoir un, au moins pour m'aider à accepter déjà.
Et Michel, je l'entends, votre détresse, on l'entend, et vous l'avez dit deux fois que vous n'étiez pas suivi psychologiquement. Est-ce que vous l'avez demandé, ou est-ce que c'est compliqué à demander? Vous aimeriez que, et moi je vous entends, je me rends compte que vous avez besoin de quelque chose, donc je me dis que les médecins qui vous suivent ne peuvent pas ne pas s'en rendre compte non plus, en fait.
On ne propose rien. On ne me propose strictement rien. Je vis seule. Mon fils est sur une autre ville. Et j'essaye de m'occuper toute la journée dans mon jardin. J'essaye de faire des choses. C'est très compliqué. Parfois, je suis très fatiguée, donc je dors. Je dors énormément. Et ça fait que la nuit, je fais des insomnies, je ne dors pas.
Ça veut dire que vous ne l'avez pas demandé non plus, en fait. Vous n'avez pas osé demander l'aide psychologique.
Non plus, quoi. Voilà.
Et vous savez pourquoi ou pas, Michel? Est-ce que vous savez pourquoi vous n'avez pas osé voir le médecin et lui dire j'ai besoin qu'on m'aide parce que je vais pas bien?
J'ai pas l'impression qu'on écoute, quoi. C'est la sensation que j'ai. J'ai l'impression que on n'écoute pas et on parle beaucoup de certains cancers, mais les séquelles d'un cancer du poumon sont énormes, quoi.
Vous avez l'impression, au fond, qu'on parle de la maladie techniquement, en fait, voilà, mais qu'on ne va pas au-delà de la technique autour de votre maladie.
Mon corps, j'ose plus le faire voir, parce que bon, j'ai eu des drains qui ont été enlevés beaucoup trop tard, parce que celui qui m'a opéré était parti en vacances. Mmh. Donc, il y en a un qui s'est infecté, qui a été très long à cicatriser, donc ça fait d'énormes trous. La cicatrice par elle-même est grosse aussi. Et mon corps, j'ose plus le faire voir, quoi, non plus, quoi. C'est quelque chose qui me fait mal quand je regarde, quoi.
Séverine Alrand, vous vouliez intervenir. Restez avec nous, Michel, une petite minute.
Alors, c'est sûr, Michel, effectivement, à vous écouter, vous avez un sacré parcours et ça doit être, enfin, effectivement, c'est difficile. On entend dans votre voix que vous êtes assez seule. Mais après, ce que je veux vous dire, Michel, c'est qu'à un moment donné, vous avez le droit de demander au médecin, en le regardant dans les yeux, de savoir, voilà, de lui demander de l'aide en lui disant effectivement les traitements ont été faits, mais est-ce que vous proposez notre soutien? Donc il y a les médecins, il y a également les infirmières, les assistantes sociales dans les hôpitaux, c'est-à-dire qu'en France, on est quand même relativement aidé pour cet accompagnement psychologique. Par ailleurs, parfois, enfin, je pense que vraiment la demande est nécessaire pour vous. Et actuellement, vous avez, enfin, je pense à une association qui est Mon Réseau Cancer du Poumon, qui va mettre en réseau les personnes comme vous qui ont un cancer du poumon, de manière à se retrouver soit dans des cafés, soit à discuter sur Internet. Alors peut-être que vous n'avez pas...
Vous avez Internet ou pas,
oui,
Michel? D'accord.
Oui.
Parce que peut-être que c'est plus facile, en effet, d'aller chercher une association en l'état que d'aller essayer de discuter avec un médecin, parce qu'on sent aussi que la confiance, elle est rompue avec vos médecins.
Moi, elle est complètement rompue, quoi. Mais j'ai plus aucune confiance en eux, quoi.
Les réseaux de patients, Michel, peuvent être d'une aide très, très importante.
Vous nous redonnez, Séverine Alrand,
Alors, c'est Mon Réseau Cancer du Poumon, c'est un réseau de patients qui est développé pour le poumon et pour le sein. Et donc, c'est un réseau qui est en France, mais qui est aussi à l'international et qui a été créé par des patients, justement, qui relataient ce que vous disiez en disant, nous aussi, on a besoin de savoir et qu'est-ce qu'il y a comme alternative.
Et on comprend que ce soit compliqué pour Michel, Séverine Alrand, y compris, alors du coup, la question suivante va être encore pire, mais y compris de dire au médecin, je voudrais changer, en fait, parce qu'entre nous, ça le fait pas.
Et
c'est très compliqué, j'imagine. Mais
c'est compliqué, effectivement. On perçoit dans le parcours de traitement qu'elle a eu, que ça a été des traitements difficiles, il y a eu des choix thérapeutiques difficiles. Donc en tant que médecin, des fois on se concentre, on va dire, sur l'aspect technique, c'est-à-dire essayer de trouver le traitement qui va laisser le moins de séquelles. Et effectivement, parfois on passe au second plan ce soutien psychologique qui est clé.
Peut-être aussi que ça fait peur à certains médecins autant que ça fait peur aux collègues de travail dont parlait tout à l'heure Jacques Tournier au fond. Enfin, vous voyez.
Et ça me rappelle, une visite un matin dans le service où une patiente qui avait 80 ans me disait, vous savez docteur, ça fait 40 ans que je fais semblant de vivre. Mm-hmm. 40 ans avant, elle avait eu l'ablation du sein et pour elle, elle était, voilà, c'est comme si elle ne vivait plus. Et c'est vrai que nous, en tant que médecins, on se dit, elle est en vie. 40 ans après, c'est une réussite. Mm. On peut se dire, c'est un échec complet. C'est-à-dire, le bien vivre après le traitement d'un cancer. Et c'est vrai que la phase de l'après-cancer, c'est la qualité de vie qui est juste essentielle.
Merci beaucoup, Michel, encore une fois, vraiment, pour ce témoignage. Et vraiment, allez chercher les associations, allez chercher les autres, allez chercher les réseaux si vous pensez que du côté de votre médecin, vous ne trouverez rien. Et apparemment, c'est le cas. Tiens, Michel, peut-être que ça va vous redonner un peu de baume au cœur. Je voudrais que vous écoutiez avec nous le témoignage d'Anne-Laure. Bonsoir, Anne-Laure.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute, allez-y.
Je rebondis un petit peu sur le témoignage de la précédente auditrice.
Michel.
Écoutez-moi, donc Michel, tout à fait. Moi, j'ai 43 ans, donc on m'a diagnostiqué un cancer du sein métastasé en décembre 2016. Alors dans un premier temps déjà je voudrais aussi dire j'ai appris cette maladie par le biais d'un radiologue. En fait j'allais j'avais mal au ventre et je me suis retrouvée de la salle d'un médecin traitant à d'un seul coup passer un scanner avec un radiologue qui n'a pas pris de gants en me disant écoutez c'est très grave, vous avez un cancer, appelez votre mari pour lui expliquer. Et je me suis retrouvée une heure après dans un bureau chez un cancérologue. Donc déjà, je voudrais dire que...
Il y a Séverine Alrand qui se prend la tête entre les mains et qui se dit, c'est pas possible, certains confrères...
Mais c'est les phrases qui
tuent. Voilà.
Mais c'est ce qui s'est passé. En fait, je reprenais ma voiture, j'ai deux enfants, etc. Enfin, je trouve ça très, très, très grave sur la façon dont on dit les choses. Donc ça, dans un premier temps. La deuxième chose, ça rejoint un petit peu ce que vous veniez de dire, c'est-à-dire que moi j'ai eu affaire à un premier oncologue qui ne m'a absolument pas plu parce que du coup très peu d'informations sur la maladie. J'ai commencé à regarder sur internet et là je me suis dit voilà, cancer du sein métastasé.
C'est pas forcément une bonne idée de regarder sur internet par
ailleurs.
J'imagine qu'on aurait tous le même réflexe. Hein, mais...
Oui, mais si vous voulez, avec un silence d'un médecin qui me dit écoutez, on va attendre, etc. Moi je me voyais partie 3 mois après quoi. Donc il m'a appris aussi donc voilà la problématique du cancer avec mon mari. On l'a pas du tout senti parce qu'on s'est pas senti libre de poser des questions. Mon mari avait des questions, moi j'étais complètement sous le choc, donc voilà. Donc j'ai changé en fait d'oncologue. Parce qu'il faut avoir vraiment comment être se sentir en sécurité avec son médecin pour
c'est
la suite, parce que fondamental. Donc voilà. Donc moi je me suis retrouvée dans une plus petite unité où en fait le médecin était aussi à Gustave Roussy et donc m'a expliqué voilà sans dramatiser non plus en m'expliquant vraiment de A à Z le traitement, ce que j'allais avoir, la chimiothérapie, la radiothérapie, etc. Et donc ça m'a voilà, j'ai jusqu'à ce moment-là, si vous voulez, j'étais dans le pleur, j'arrivais pas, j'étais au fond du trou, vraiment ça n'allait pas. Et donc à partir du moment où j'ai été bien prise en charge par un médecin, etc., j'étais en confiance, j'ai passé la période de chimiothérapie. Alors je rebondis encore sur le témoignage de Michel. Moi justement je me suis dit je m'ouvre à plein de choses. J'ai demandé un soutien psychologique. Donc par le biais de cette unité, ça n'a pas duré parce que la personne est partie, etc. Mais justement, j'ai après aussi contacté l'association, la STR 77, donc qui m'a vraiment soutenue sur le côté soutien psychologique. J'ai une psychologue et une infirmière qui sont venues dans un premier temps me voir, prendre la température, voir de quoi j'avais besoin, etc. Mmh. Et qui m'ont donné une liste de psychologues. Avec lequel donc j'ai pu avoir déjà en plus une aide financière et aussi des intervenants spécialisés. Donc ça vraiment je remercie ce type d'association parce que ça m'a énormément aidé dans et la période du traitement et l'après cancer.
Mmh. Et maintenant?
Et bien maintenant, c'est aussi pour ça que je témoignais, c'est-à-dire que avant mon diagnostic, je voulais me mettre à mon compte. Donc quand j'ai appris cette maladie-là, je me suis dit double effet qui se coule. Non seulement il faut que je m'en sorte, mais en plus il faut que.
Enfin, quand je sors, après, je monte ma boîte.
La vie est terminée parce que je sais très bien, je travaille dans les assurances et on sait très bien comment ça se passe. Et donc ça, c'est aussi très très compliqué par la suite parce que on a 40 ans, on a encore plein de temps derrière. Voilà, on s'en est sorti, donc on a envie de continuer.
Pardon de vous interrompre parce que je voudrais qu'on passe aussi à d'autres auditeurs, mais vous l'avez créé votre boîte ou pas?
Je me suis mise à mon compte grâce à mon entreprise, mais par contre, les banques ne m'ont pas suivi, les assurances ne m'ont pas suivi sur ce sujet-là. Donc heureusement que j'ai trouvé une solution avec mon employeur actuel et ça c'est aussi un vrai sujet. Le cancer et le travail et ça c'est
absolument un vaste sujet et les banques et les assurances, Anne-Laure, vous faites bien de le dire parce que ça aussi c'est important. Jacques Tournier, j'imagine que vous envoyez aussi des gens trouvez-moi un autre projet, aidez-moi à avoir un autre projet professionnel, aidez-moi à tourner une page, aidez-moi à créer mon entreprise parce que j'imagine qu'il y a des crédits qui sont là pour ça. Vous l'entendez beaucoup aussi?
Oui, ça peut être le cas. En général, quand les gens sont dans une entreprise où il y a un certain nombre d'avantages en termes de couverture santé, etc., faut pas se voiler la face non plus. Mm-hmm. Ils cherchent plutôt à rester au sein de l'entreprise, ce qui est normal. Donc moi, j'ai plutôt eu l'exemple de quelqu'un qui était sur le départ et qui finalement a décidé de rester. Parce qu'il y a quand même
peut-être un aspect, pour les mêmes raisons d'ailleurs.
Il y a un aspect quand même sécurisant. Oui, il y a un aspect sécurisant à rester et puis aussi avoir une activité qu'on connaît déjà et une certaine continuité. Donc ça dépend vraiment des personnes.
Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, alors je vais pas vous sortir de ce qu'est votre zone, Jacques Tournier, mais effectivement le prix des assurances, le prix des prêts. Ça veut dire qu'il y a mille choses qui sont du domaine d'un nouveau projet d'avancer vers autre chose qui sont bloquées simplement par le fait qu'on a été malade et qu'on est obligé de le porter en bandoulière et de le porter sur son front, parce que si on le dit pas, on est sanctionné, ce qui est quand même toujours assez terrible en fait.
Donc les associations dont je parlais tout à l'heure, dont Cancer at Work, mais pas que, militent beaucoup en ce sens-là, auprès du ministère notamment, pour qu'il y ait des régimes spécifiques en termes d'octroi de prêts. Oui, oui.
Et ce que j'ai retenu également, Séverine Alrande, de ce que nous a raconté notre auditrice à l'instant, effectivement, c'est je veux des informations, je veux qu'elles soient simples, je veux qu'elles soient fiables, je veux savoir ce qui va m'arriver. C'est aussi simple que ça, en fait, au fond.
Alors, pour les informations, il faut savoir qu'en France, on a quand même la chance d'avoir des sites institutionnels qui donnent une information adapté. En général, c'est délivré rapidement. Donc, l'INCa, avec un site qui est assez pédagogique et qui permet, en fait, de donner de l'information. Effectivement, sur Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi. Donc, il y a vraiment, il y a des sites institutionnels qui sont extrêmement bien faits.
Est-ce que vous donnez une liste de sites? Parce que, honnêtement, la tentation d'y aller, elle est beaucoup trop forte. Mais on sait très bien qu'on risque de trouver des trucs épouvantables. Est-ce que, tant qu'à faire, vous dites, allez plutôt voir là-dedans parce que ce genre de forum, c'est à peu près pas mal. Ou n'y allez pas du tout? Qu'est-ce que vous dites à un patient?
Alors, à la première consultation, c'est extrêmement difficile de rajouter, en plus de tous les documents concernant les traitements, une liste de sites. Donc ça se fait au fil de l'eau, en rencontrant les infirmières au cours des hospitalisations, au cours par exemple des séances de chimio, et c'est petit à petit, on va dire, que les informations viennent. C'est vrai que la première consultation en cancérologie est très très dense. Donc il y a tout un... Et après, effectivement, donc là, on est dans la première consultation en cancérologie, et comme on est vraiment, enfin, l'après-cancer, au sein du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, on s'engage, on va dire, enfin, on crée une unité de surveillance, et justement, pour faire le point de ce qui s'est passé pendant les traitements, et cette unité de surveillance, et faire le point sur les séquelles, à la fois physiques, psychiques, et retour au travail. Et on fait également une convention avec Maison de la Vie. Donc j'en parle aussi, qui peuvent être des semaines de récupération, avec ciel bleu, sur l'activité physique adaptée, le bien manger, bien bouger, échanger. Et ces temps-là, c'est vrai qu'on décide de les positionner après les traitements. C'est tellement dense ce qui se passe pendant les traitements qu'ensuite il peut y avoir de la confusion et une fatigue qui peut être accentuée. Donc il y a des, des temps thérapeutiques.
Et d'autres temps, il ne peut pas y avoir des gens comme Michel chez vous, parce que vous le verriez tout de suite qu'elle ne va pas bien.
Effectivement, le but, c'est dès la première consultation, donc en cancérologie, la consultation aussi d'infirmière qui est importante, pour repérer les fragilités à la fois psychosociales des personnes et être dès le départ dans cette identification des facteurs de risque.
Bonsoir Pascal.
Oui, bonsoir. Bah, écoutez, je voulais vous raconter mon histoire qui est un peu ancienne maintenant. On m'a diagnostiqué quand j'avais... Voilà, tant mieux, exactement, sans doute. C'est une très bonne nouvelle, effectivement. J'avais 26 ans quand on m'a diagnostiqué un cancer de la peau, qui s'est finalement plutôt bien résolu par de la chirurgie. C'est vrai que j'ai pas eu à subir les traitements que certains auditeurs ont pu décrire, avec quelques complications. Mais au final, finalement, à part... une annonce que j'ai trouvée extrêmement brutale, et ça, je trouve que votre auditrice précédente le soulignait, on m'a annoncé ça dans un cabinet de chirurgienne esthétique en me proposant un cognac en sortant.
Oulala.
Voilà, ce qu'on m'a proposé. C'est assez véridique.
Très baroque,
et puis on m'a laissé un peu ça. On m'a laissé un peu avec ça dans les rues de Marseille pendant quelques heures avant que je rejoigne ma compagne. J'insiste sur l'annonce parce que je pense que ça a conditionné beaucoup de choses. Ce qui est difficile, je trouve, dans cette maladie, c'était les nombreux contrôles, tous les 3 mois, 6 mois, tous les examens qu'on peut subir, à un âge où j'étais absolument pas préparé à ça. Enfin, j'étais en début de vie professionnelle et absolument pas prêt à envisager des problèmes existentiels comme cela. Et en fait, au final, c'est quand j'ai commencé, quand on m'a dit au bout de 5 ans que ça y est, je faisais partie des patients comme les autres, qui finalement n'avaient pas plus de risques que les autres et que j'étais considéré comme guéri, que je me suis un peu effondré psychologiquement. C'est-à-dire, j'avais pris l'habitude pendant quelques années de vivre sans projet à trop long terme, en ayant toujours l'impression que une mauvaise nouvelle allait se surajouter. Et cette difficulté à se projeter, en fait...
Mais du coup, vous saviez plus quoi faire avec votre vie quand ça a été fini, au fond.
C'était un peu ça, de vivre sans ce stress. J'avais pas vraiment appris à vivre avec des projets à long terme. Mais ça a été très difficile. Et ça a été très difficile à comprendre aussi, probablement pour les médecins qui m'entouraient à ce moment-là. Parce qu'au fond, moi, j'allais bien. J'étais un jeune patient en pleine forme. Et au fond, les dégâts de cette période n'ont pas vraiment été identifiés, ni par moi, ni... par les médecins, mais c'était quelque chose de vraiment, je trouve, voilà, qui a conditionné beaucoup de choses. Alors tout va bien, j'ai 40 ans aujourd'hui, hein, donc c'est quand même une vieille histoire. Et, et j'ai réussi voilà, à avancer, à passer ce cap difficile, mais j'étais moi-même surpris de m'effondrer un peu face à ce passage finalement qui était plutôt une bonne nouvelle, un moment où je devais laisser ça derrière moi. Moi j'avais la difficulté à laisser derrière moi en fait.
Merci pour ce témoignage, voilà. Pascal. Merci beaucoup, Jacques Tournier. C'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure aussi sur le fait que parfois tout ça ne se voit pas en fait, y compris quand on est avec nos collègues dans l'entreprise. Donc autour de nous, j'entends bien ce que dit notre ami Pascal. Je vois bien les gens dire non mais oui, il est où ton problème ? Qu'est-ce qui va pas ? Enfin, tu vas bien ? Alors quoi ? Arrête de nous emmerder avec ton histoire quoi. Au fond, c'est ça qu'on entend autour, non ?
On peut avoir une problématique dans la durée, c'est vrai. Donc ça nécessite un accompagnement des équipes. Et c'est pour ça, encore une fois, que la communication est importante. Parce que oui, il peut y avoir au bout d'un moment un oubli de la communauté par rapport à la situation. Et on voit bien qu'avec tous les cas de vie qu'on entend ici, les temps sont complètement différents d'une personne à l'autre.
Mais ça veut dire que dans l'entreprise, par exemple, on sait que ouais, il faudra attendre 5 ans, parce qu'effectivement, la guérison, on ne la déclare qu'au bout de 5 ans. On se dit que vous savez anticiper qu'il peut y avoir des passages à vide au moment du retour, en fait.
On sait, justement, quand on fait témoigner les salariés dans l'entreprise, ils expliquent eux-mêmes que, par exemple, à la fin de la période de traitement, il y a un passage à vide parce qu'ils sont lâchés par les médecins. Il y a une espèce de période de vacuité entre le moment où ils sont lâchés par les médecins et le moment où ils vont reprendre le travail. Ça, on le sait. Donc, on essaye d'accompagner ça aussi.
Allez, rapidement, sur franceinter.fr, j'ai été soignée pour un cancer il y a 4 ans de cela. Je suis considérée comme guérie aujourd'hui, bien que toujours suivie par mon oncologue. Ma maladie m'a obligée, je suis tentée de dire, m'a permise de remettre en cause ma façon de vivre, de bouger, d'être attentive à moi, à mon corps, etc. Cette situation est à la fois excitante et angoissante. Je me sens aussi désarmée parce qu'au fond, je ne sais pas par quoi commencer. Par quoi dois-je commencer ? J'imagine que je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. Qu'en pensent vos invités ? Nous demande notre amie auditrice dont j'ai perdu le prénom. Par quoi on commence, Jennifer ?
C'est une réflexion très intéressante, mais tout se passe, je pense, dans les premiers temps du traitement. Et je pense que, en revenant sur justement ce flou qui se passe après, si d'emblée on commence à dire, vous savez, le traitement va durer temps, et après, il pourra avoir ça. C'est-à-dire, si d'emblée, au moment de la consultation, on positionne, on va dire, des échéances, c'est parfois mieux vécu. Donc, cet après-cancer commence dès la première consultation et l'impact des mots peut être dramatique. Et donc, c'est à nous aussi de peser les mots et surtout de nous adapter au patient qu'on a en face de nous.
Et merci à tous. Merci de vos très nombreux appels. J'ai une pensée pour Michel qui nous écoute en ce moment et pour Laurence aussi qu'on a eu tout à l'heure au téléphone sonne. Merci à tous et portez-vous bien.